Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Amélie Chaudet, rebonjour.
Alliance Atlantique, quelle reconfiguration à l'heure du sommet?
Voilà, avec notre invité Frédéric Charillon, professeur de sciences politiques, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci en direct comme d'habitude. Alors la première chose à dire évidemment, c'est que depuis les bouleversements internationaux, l'Alliance Atlantique a beaucoup élargi son champ de compétences, elle s'est elle-même beaucoup élargie, on va vers 29 membres, le Monténégro est en train d'adhérer, à quelques jours près si mes souvenirs sont bons, et puis il faut rappeler aussi qu'après la chute de la maison soviétique, l'OTAN avait multiplié les organisations Jigong, elle avait signé un acte fondateur OTAN-Russie, un conseil commun OTAN-Russie également. Par la suite, elle a promu un plan d'action OTAN-Ukraine. Alors la grande césure, c'est 2014, l'annexion manu militari de la Crimée ukrainienne par la Russie. Entre-temps, l'Alliance Atlantique était intervenue dans des théâtres plus ou moins lointains, jusqu'à l'Afghanistan. Elle avait violé le droit international aussi bien au Kosovo qu'en Libye. Et puis, il faut rappeler aussi que la France a réintégré, il y a quelques années, le commandement militaire de l'Alliance Atlantique. Et donc, on trouvera toutes les dates respectives sur le site internet de ces principales évolutions. Et puis, il y a évidemment le nouveau président américain. Comment est-ce que vous voyez globalement le présent et l'avenir de cette organisation, finalement, assez considérable maintenant, 29 membres?
Oui, je crois précisément que c'est un peu le problème. C'est non pas qu'elle soit... Si, c'est aussi le problème, d'ailleurs, qu'il y ait 29 membres, mais je pense qu'on est à un tournant. On est à un tournant parce que d'abord, il y a eu des phases importantes, vous en avez rappelé quelques-unes. Il y a eu l'Afghanistan, qui a été le moment où l'OTAN est sorti de son territoire naturel, si je puis dire, parce que c'est quand même le traité de l'Atlantique Nord, donc par définition, la défense des pays de l'Atlantique Nord dans une zone relativement précise et qui est d'ailleurs impliquée dans le nom même de l'Alliance et qui s'est retrouvée en Afghanistan. Donc il y a eu un débat. Ensuite, il y a eu la Libye. Donc il y a déjà ce premier débat qui persiste, c'est est-ce que l'Alliance Atlantique est faite aussi pour se projeter sur des terrains lointains? On voit aujourd'hui que le président américain souhaite impliquer officiellement et pleinement l'OTAN dans la lutte contre l'État islamique. Il y a eu un deuxième tournant, vous l'avez rappelé, c'est l'Ukraine. Et là, c'est finalement le grand retour aux sources. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'OTAN à nouveau doit se soucier de la sécurité de ses membres et en particulier des membres européens et notamment, bien sûr, ceux qui sont le plus au contact, si je puis dire, de la Russie. Donc, il y a ces problèmes qui sont en suspens. Est-ce qu'on doit continuer à donner à l'OTAN des missions lointaines? Est-ce qu'on doit au contraire redonner la priorité, réinvestir massivement sur une présence otanienne en Europe pour protéger les Européens et non pas pour se projeter sur des théâtres extérieurs? Puis il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a des inconnus. Il y a l'inconnu, bien sûr, Trump, qui est un président qui arrive en disant que l'OTAN est obsolète, bon, qui multiplie les déclarations sur un petit peu tout, c'est vrai, mais enfin ça affole quand même les membres de l'OTAN. Il y en a d'autres, des problèmes, il y a aussi l'avenir de l'implication de la Turquie, parce que nous avons maintenant dans l'OTAN un membre important, c'est la deuxième armée de l'Alliance Atlantique, la Turquie, qui est sur quand même une trajectoire qu'on va qualifier pour le moins d'incertaine.
Et qu'il faut rappeler toujours qu'il est un pays membre de l'OTAN, organisation très démocratique, la Turquie en l'occurrence, occupe 38% d'un pays souverain, c'est-à-dire Chypre depuis 1974. Il faut m'expliquer la logique démocratique de cet événement.
Oui, et puis il y a aussi des guerres, des interventions extérieures qui ont été menées au nom de la démocratie libérale, qui ont été menées au nom d'une certaine idéologie politique et qui maintenant est une alliance qui a dans son sein un pays qui est sur une dérive qui n'est pas tout à fait démocratique, pour le dire comme ça.
Alors il y a le fameux article 5 de la charte qui est d'ailleurs très court et donc qui a été pour l'unique fois invoqué, c'est évidemment au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et c'est intéressant quand même aussi à rappeler parce que c'est un conflit géographiquement périphérique.
Oui. Il y a aujourd'hui vraiment une incertitude sur les missions de l'OTAN. Il y a une incertitude sur le terrain sur lequel doit se déployer, une incertitude sur les relations à avoir avec ses membres. On parlait de la Turquie, il faut parler avec les Turcs, mais il faut quand même qu'on parle sérieusement de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent faire. Il y a un rapprochement avec Moscou, enfin, tout ça est très peu clair. Et il y a un certain nombre aussi d'inconnus sur la capacité de l'OTAN à défendre ses membres et à utiliser véritablement l'article 5. C'est vrai que la seule fois pratiquement où il a été invoqué, c'est après les attentats, vous venez de le mentionner. Aujourd'hui, il y a un risque, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, que ce serait, évidemment c'est la question, même si elle est un peu fictive, que tout le monde se pose, que se serait-il passé si la Géorgie et l'Ukraine avaient appartenu à l'OTAN, comme certains membres, notamment les États-Unis, le souhaitaient? Est-ce que l'Alliance aurait été capable de les défendre. Et puis, on peut même se projeter un peu plus vers les pays baltes en se demandant si vraiment l'Alliance est aujourd'hui en mesure de défendre tous ses membres s'ils sont attaqués. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire, genre techniquement, militairement? Est-ce qu'elle est en mesure de le faire de par la volonté des États membres politiquement? Est-ce que quelqu'un a envie de mourir pour les pays baltes en Europe, aux États-Unis par exemple?
Alors, Frédéric Charillon, il y a eu aussi une question intéressante, c'était justement à propos de l'Ukraine. Obama, le président Obama avait été très prudent il y a quelques temps, après l'annexion de Manu Militari de la Crimée par l'Ukraine et le grand désordre que met la Russie dans l'Ukraine orientale. Le président Obama avait dit attention, attention, il n'y a pas d'urgence à imaginer que l'Ukraine sera un jour dans l'OTAN, et c'est vraiment le chiffon rouge pour les Russes. Je veux dire, il y a des dénis de réalité, et moi j'ai entendu je crois le numéro 1 d'ailleurs militaire de l'Alliance Atlantique après 2014 dire mais pourquoi pas l'Ukraine dans l'OTAN. Alors là, je crois que là, on cherche les complications.
Oui, on est à un moment clé où on doit vraiment se poser la question de l'identité de l'OTAN, de l'élargissement jusqu'où, est-ce que tout ça est raisonnable? C'est une espèce de rhétorique de guerre froide, de penser que plus on élargit une alliance, plus elle est puissante. Alors, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est peut-être pas le cas.
Alors, je vous rappelle, il a changé d'avis, mais au tout début, après les bouleversements internationaux, donc au tout début de la nouvelle période, il y a presque 30 ans, Henry Kissinger avait dit très bien, il a changé d'avis hélas, et il dit très bien à propos de l'élargissement de l'OTAN à tout va, ce qui d'ailleurs est advenu par la suite, à force d'élargir l'OTAN de cette façon-là, à force d'être allié avec tout le monde, on est allié avec personne. Et c'était une vraie pensée stratégique.
Oui, parce qu'il y a une question d'identité. Quand on se défend collectivement, c'est nous contre les autres. Si on n'est plus capable de définir le nous, effectivement, ça devient un véritable problème. Il y a deux risques dans l'élargissement extrême d'une alliance. C'est d'abord d'intégrer des pays vulnérables à une menace extérieure. C'est le cas des pays baltes, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, c'est aussi le risque d'intégrer des pays qui sont vulnérables en intérieur.
L'Albanie est membre de l'OTAN.
Voilà, il y a des pays instables en interne, sans menace extérieure, mais qui sont menacés d'être des États effondrés.
Alors juste dernière chose, Frédéric Charillon, le président Trump, avec toutes ses qualités qu'on lui connaît, a quand même dit une chose de bon sens. Que disait le président Obama? C'est-à-dire, vous ne mettez pas d'argent au pot. Et là, il a raison. En revanche, là où il est un peu inquiétant, vu des pays baltes et de Pologne, c'est quand il dit, si vous ne mettez pas assez d'argent, on ne vous défendra pas.
Oui,
alors bon, là, c'est autre chose.
C'est une pression supplémentaire, mais la rhétorique américaine reste la même depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'y a pas de raison que les États-Unis payent pour tout le monde, il faut quand même que les Européens commencent à faire un petit effort. Alors il y a eu un tournant, c'est-à-dire qu'on pensait que l'Europe, dans les dernières années, pouvait être un producteur de sécurité, un fournisseur de sécurité, et à nouveau, l'Europe devient un consommateur de protection et de sécurité américaine. Or, ça tombe à un moment où le président américain n'a pas l'air tout à fait disposé à le faire gratuitement. Il va y avoir une rencontre aussi avec le nouveau président français. Ça va être un moment marquant, je pense, de ce sommet. Ça va être une première rencontre où la France et les États-Unis vont pouvoir se parler très franchement de toutes ces questions, du financement, des 2% pour la défense, de l'initiative à prendre pour l'OTAN, de la nature de l'OTAN, de son rayonnement géographique.
La lutte contre le terrorisme, et je voyais qu'en 2000, en regardant hier des notes, l'OTAN voulait intervenir dans l'immigration clandestine, la violence ethnique et la criminalité internationale. Alors, qui trop embrasse?
Oui, absolument mal étreint, mais on est revenu au vieux débat qu'on avait connu dans les années 2000 sous les néoconservateurs américains, c'est-à-dire est-ce que l'OTAN a vocation à être le gendarme de la planète, à se substituer même parfois à certaines organisations internationales? On a déjà eu ce débat. Est-ce que les débats de ce type, immigration, etc., doivent être conduits au G8, G20, etc.? Est-ce qu'ils doivent être conduits à l'OTAN? Est-ce que c'est la vocation d'une alliance? La réponse française à l'époque était très clairement non. Je suis pas certain que ça ait beaucoup changé aujourd'hui et ça risque d'occasionner quelques tensions dans la journée d'aujourd'hui.
Frédéric Charillon, donc professeur de sciences politiques, franceculture.fr pour écouter l'émission et pour la télécharger. Vous allez voir, Émilie, on reste un peu dans le même domaine macro-international demain matin.
Exactement, avec quelle importance accorder au sommet du G7, la
question. Voilà, au sommet du G7 qui a lieu, sauf erreur, en Sicile, si mes souvenirs sont bons, en Italie. Et donc notre invité sera Xavier Thimbault, donc sera l'aspect économique au FCE.
Merci à vous Thierry Garcin et merci à Frédéric Charillon qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en direct en studio.